Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement.
On va tous mourir!
Ouais, j'aurais dû penser à me faire vacciner avant.
Une piqûre,
voilà qui est bien mystérieux.
On n'était pas malade?
Non, je vais bien, je me porte comme un chat.
Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent.
Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
En tout cas, ça fait rudement plaisir d'avoir des gens en bonne santé.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
On veut le vaccin tout de suite, faites-nous le vaccin.
Vous voulez le vaccin tout de suite, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, Olivier Véran, hier, aux 20h de France 2, le ministre de la Santé a expliqué que la France assumait tout à fait de ne pas être si pressé que ça de vacciner des centaines de milliers de Français. On l'écoute.
Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé, et de vacciner les personnes âgées en EHPAD, et non pas de les faire se déplacer, par exemple. Et donc, ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui dans le démarrage, où on me dit parfois ça va un peu lentement en France, il est assumé. Ce qui compte, c'est que d'ici à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde et que l'objectif est le même. Donc nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables et nous aurons en plus, je l'espère vraiment, c'est tout mon travail, gagner de la confiance et de l'adhésion à la vaccination.
On verra si la France rattrape l'Allemagne à la fin de la campagne de vaccination. Toujours est-il qu'hier, il y avait un peu plus de 100 Français qui avaient été vaccinés alors qu'en Allemagne, ça a commencé le même jour. Vous étiez, oui, quasiment à 18 000 et en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui a commencé 2 semaines plus tôt, c'était des centaines de milliers. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Jean-Paul Hamon. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, médecin généraliste évidemment. Est-ce que pour une fois vous êtes d'accord avec le ministre de la Santé Olivier Véran pour dire il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il vaut mieux laisser tranquillement les médecins généralistes vacciner eux-mêmes?
Écoutez, je suis un peu surpris, effectivement, comme vous, du faible nombre de vaccinations qui ont été faites ce week-end. On peut considérer que c'est un démarrage, mais franchement, j'espère que ça va pouvoir s'accélérer parce que on n'est pas rendu au bout du chemin.
Non. Si vous êtes à 100 personnes par jour, effectivement, on est loin de l'immunité collective, même dans 10 ans, ça c'est très clair. En tout cas, Olivier Véran dit que ça va s'accélérer. Il explique aussi d'ailleurs qu'on a commencé par les EHPAD et qu'il faut y aller doucement. Et il a montré d'ailleurs de manière un peu perfide à l'égard de nos collègues allemands, nos voisins allemands, qu'il y avait eu quelques loupés en Allemagne, justement avec des ruptures de chaîne du froid, c'est pas facile à conserver un vaccin, ou alors avec des loupés comme ces pauvres soignants de résidence pour personnes âgées qui ont reçu 5 doses d'un coup et qui ont été hospitalisés d'un coup. Faut faire si attention que ça, Jean-Paul Hamon.
Écoutez, je pense que s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se moquer du voisin parce que il y a quelque chose qui s'appelle le boomerang et qui revient un peu plus vite qu'on ne l'a lancé. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. La France, depuis le début de cette pandémie, n'a pas fait preuve d'efficacité avec l'histoire des masques, avec l'histoire des tests, avec l'histoire du vaccin, même contre la grippe, qui est introuvable même pour les personnes à risque. Mm-hmm. Donc je pense que on a de leçons à donner à personne.
Restons humbles en tout cas.
Maintenant, effectivement, il va falloir que la chaîne, la distribution des médicaments s'accélère, que les médecins généralistes puissent avoir les moyens de faire tranquillement les personnes à risque qui ne sont pas en EHPAD, car tout le monde n'est pas en EHPAD. On a plein de questions dans nos cabinets quotidiennement à chaque consultation. Docteur, est-ce qu'il faut que je me vaccine? Est-ce que c'est sans risque? Est-ce que vous allez faire? J'ai vu déjà des maires et c'est un très bon exemple qui demande à être vacciné.
200 maires dans toute la France, des MAIRES, qui veulent se porter volontaires.
Absolument, c'est une très bonne chose. J'ai entendu l'appel du maire d'Antibes qui lui aussi a dit qu'il voulait se faire vacciner. Donc tout ça, je pense que les médecins, l'exemple viendra des responsables et des médecins. Et je pense que le gouvernement serait bien très bien, inspiré de se faire vacciner publiquement dans son ensemble, même si dans ce gouvernement, il n'y a pas que des personnes à risque.
Effectivement. Autre question, Jean-Paul Hamon. Olivier Véran l'a souligné hier. L'Allemagne a fait le choix de grands vaccinodromes. C'est presque d'ailleurs une expression que vous avez inventée vous-même il y a quelques années, Jean-Paul Hamon. L'Allemagne choisit les vaccinodromes et la France choisit plutôt de laisser tranquillement ses médecins administrer eux-mêmes, tranquillement, progressivement, le vaccin. Est-ce que ça, au moins, c'est une bonne stratégie? Parce que si on se rappelle l'épisode de la grippe A qui avait finalement fait pchit, mais pour laquelle on avait un stock d'un milliard, on avait un stock de vaccins. On avait fait le choix inverse.
On avait un stock de 96 millions et sous Roselyne Bachelot, la grippe H1N1 avait été, ils avaient vacciné 6 millions de personnes quand les médecins généralistes chaque année vacciner 12 millions de personnes.
Ce que je veux dire par là, Jean-Paul Hamon, est-ce que la France a fini, en tout cas le gouvernement, a fini par vous écouter quelques années après ?
Alors, j'espère encore que, si vous voulez, les discussions que peuvent avoir nos responsables actuellement avec le ministère sur l'organisation, on sent que quand même, ça sent quand même un petit peu le vaccinodrome, là. Mmh. Si ça doit les démanger quelque part, de ne pas tout contrôler et de faire se regrouper des gens alors que on pourrait tranquillement vacciner par paquet de 5 les personnes parce que de toute façon vous savez et on voit bien avec ces 50 personnes qui ont été vaccinées ou 100 personnes qui ont été vaccinées en deux jours, on voit bien que les vaccins arrivent au compte-gouttes. Ils vont pas arriver les 200 millions de doses ou 300 millions de doses que la France a commandées vont pas arriver massivement. Elles vont arriver très très progressivement et ça va être réparti au moins jusqu'au mois de juin, donc on a largement le temps de vacciner 30 ou 40 personnes ou 50 personnes de notre patientèle, personnes à risque par semaine, sans être obligé de déclencher une organisation militaire.
Jean-Paul Hamon, vous êtes vous-même médecin généraliste. À partir de quand vous pensez pouvoir vacciner vos propres patients qui en feront la demande ?
Déjà que dans les EHPAD, à mon avis, ça va commencer vraiment le autour du 15 janvier. Mmh. Je pense qu'on devrait pouvoir commencer à se vacciner, nous, en février-mars.
Février-mars, ce qui est quand même assez tard, mais pourquoi pas.
Oui, c'est assez tard, mais vous savez, il y a une grande campagne d'information des Français. Parce que les sondages qui disent qu'il y a 50% des Français qui veulent pas se faire vacciner, c'est pas des faux sondages. Hein. Il faut persuader les Français, il faut vraiment les informer. Et cette consultation qui est un peu lourde quand même de pré-imposer pour que les gens aient un consentement éclairé. Ça ralentit aussi le rythme des vaccinations, mais ça va être nécessaire parce que nous, depuis un moment, on est en train de rassurer les Français, de leur dire « Attendez, c'est un vaccin, certes, il a été fabriqué en moins d'un an, sur un virus qui a à peine plus d'un an, mais cette technique-là, c'était une technique qui était évoluée. Il y a déjà plusieurs millions de personnes maintenant qui ont été vaccinées. Et sur les 80 000 personnes qui ont fait partie d'expérimentation, il n'y a pas eu d'effet secondaire majeur. Et donc, il va falloir effectivement persuader les Français de se faire vacciner. Et ça, c'est pas un mince boulot. »
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Joyeuse année à tous avec la bonne idée du chef pour se faire plaisir. Bah oui, si vous avez prévu de vous retrouver ce midi en famille avec vos proches. Aujourd'hui, nous sommes avec le chef étoilé et du restaurant Le Vivarais du côté de Vals-les-Bains en Ardèche. Bienvenue et bonjour Stéphane Poli.
Bonjour et meilleurs vœux à tous. Merci.
Oui. Une année bien meilleure, on le souhaite pour tous les restaurateurs.
Oui, on le souhaite aussi, on souhaite pouvoir reprendre une activité et fonctionner à nouveau.
Bien sûr, c'est important, on va y revenir dans quelques secondes si vous le voulez bien, Stéphane Poli. Mais d'abord, vous nous faites le plaisir en tout cas d'être avec nous ce matin pour parler du homard. C'est un produit de fête que vous aimez beaucoup travailler habituellement.
Oui, absolument. C'est un très joli produit qui est apprécié par les clients, donc qu'on travaille assez régulièrement.
Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme recette, comme petit plat pour bien déguster de la meilleure des façons ce homard ?
Moi, ce que j'aime, c'est le travailler déjà de décortiquer, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à manger. Donc, en général, on essaye de l'adapter. On fait une petite raviole ouverte, donc une pâte à pâte qu'on fait nous. On cuit les homards donc en deux façons. On cuit la queue un petit peu moins longtemps que les pinces, puisque les pinces sont un petit peu plus résistantes et un peu plus fermes. Donc on les cuit un peu plus longtemps. On décortique notre homard. Ensuite, on le fait juste snacker dans une poêle avec un petit beurre de homard qu'on fabrique nous pour garder le gustatif. Et on se sert de la tête, des carcasses, du corail pour faire une base de sauce que l'on utilise après pour servir avec notre ravioles ouverte. Et puis, on se sert des légumes du moment, au printemps, en été, en automne, pour faire une petite poêlée de légumes que l'on sert avec. Et puis, on peut rajouter sur cette période un peu de truffe tuber mélanosporum que l'on met avec.
Voilà. Il paraît qu'elle est très bonne en ce moment, donc faut en profiter. Juste là, vous avez parlé notamment de la cuisson du homard. Est-ce qu'il y a quelques petites astuces, justement, ou quelques petites règles à respecter pour que ça soit parfait?
L'idéal, c'est de le cuire vraiment séparément. La queue un peu moins. Donc nous, on est sur à peu près 3 minutes pour la queue et quasiment le double pour les pinces.
Si on veut le déguster froid, il y a quelle possibilité justement pour en profiter?
Le principe de cuisson est quasiment le même. Puis après, on l'accommode avec des petites vinaigrettes, des petites sauces pour amener un peu de fraîcheur. Et puis c'est pareil, on peut s'amuser à jouer avec des légumes de saison.
Bien sûr. Il y a un grand débat à chaque fois avec le homard. Est-ce qu'on préfère le homard bleu européen ou plutôt l'américain, le canadien? Là-dessus, il y a une différence importante de goût entre les deux, hein.
Oui, moi je trouve qu'il y a une différence de texture déjà, des chairs et un petit peu sur le gustatif, oui, absolument. Oui. On essaye d'utiliser au maximum le homard bleu, le homard européen. Plutôt que les homards canadiens.
Alors, autre époque, j'ai appris qu'il y a 150 ans, on parlait du homard, on disait que c'était le cafard des mers. Bon, ça a bien changé en tout cas. Et on va en profiter justement de toutes vos petites recettes, vos petites indications justement pour le déguster. Quelques mots quand même pour conclure sur la situation que vous vivez, Stéphane Poli, pour votre restaurant du Vivarais à Vals-les-Bains. Comment vous en sortez actuellement? Comment vous fonctionnez? Vous avez un peu de vente à emporter?
Oui, on fonctionne avec de la vente à emporter pour essayer de d'être présent, de garder le contact avec notre clientèle, puis surtout d'exister, quoi, de toujours travailler un peu, d'être dans la cuisine, de faire quelques plats. Parce que c'est une période quand même assez difficile et puis surtout frustrante pour nous, qui aimons partager avec les clients, qui aimons échanger, faire plaisir. C'est une grosse frustration.
Parce que quand vous faites comme ça de la vente à emporter, c'est forcément moins stimulant en tout cas que ce que vous faites d'habitude.
Déjà, on n'a pas ce contact, nous en tant que chef, avec le client. Ils prennent les plats, ils les mangent chez eux, on n'a pas de retour. On ne reste pas dans les assiettes, on sert dans des boîtes. Donc il y a quand même une frustration pour nous. Ça nous fait plaisir parce que on continue à cuisiner, on continue à être là. Mais il y a une frustration importante quand même. Et surtout, on n'a pas de visibilité sur l'avenir, quoi. C'est ça qui est un petit peu compliqué, sur l'avenir proche, bien sûr.
Parce qu'en plus, vous êtes un département qui pourrait être concerné par le couvre-feu dès 18h. C'est une inquiétude que vous avez. D'ailleurs, pour l'instant, la décision n'a pas été encore prise de votre côté, du côté de l'Ardèche en tout cas, du département.
Non, oui, pour l'instant, la décision n'a pas été encore prise. Alors après, c'est sûr que pour nous, 18h, sert à rien, ça ne sert plus à rien de fonctionner et de faire du click and collect, parce que 18h, c'est beaucoup trop tôt. Donc on arrêterait même le click and collect si il s'avère qu'on soit confiné, qu'on ait un horaire à 18h.
Jusqu'à présent, en tout cas, vous sentez la fidélité et puis le soutien de la clientèle, de vos clients.
Oui, ça fait plaisir. Ça, parce que les gens jouent vraiment le jeu, les clients sont présents, nos clients viennent nous voir, viennent prendre des plats, donc c'est rassurant, rassurant.
Nous aussi, on est de tout cœur avec vous, en tout cas Stéphane Poli. Je rappelle, vous êtes le chef étoilé du restaurant Le Vivarais à Vals-les-Bains en Ardèche, en espérant bien sûr que cette année 2021 soit meilleure pour vous et pour tous les restaurateurs. À bientôt Stéphane Poli, au revoir.
Merci beaucoup et bonne année encore à tout le monde.
Merci à vous.
Le meilleur de Sud Radio.
Sud Radio.
Dans les doutes, tu peux compter sur moi. Tout au long de la route, on en croisera de ceux qui ne croient pas ces choses-là. Sans doute, s'il ne voit pas ce qu'on voit. Relève la tête, regarde au-delà de tout ce qui n'est pas ces choses-là. Et laisse-les, laisse-les, je t'en prie, ne laisse jamais tomber. Un jour le temps le rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble, nos différences s'entendent. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse. Et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble. Nous sera plus fort que ça. On fera la paire, on ira les chercher. On ira crier s'ils veulent nous empêcher. Pour nous, je ferai n'importe quoi. Pour que tu te souviennes que jamais les autres pourront te priver de ces choses-là. Et laisse-les, laisse-les, je t'en prie, ne laisse jamais tomber. Un jour le temps le rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble, nos différences s'entendent. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse. Et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble. Quand on se ressemble, les différences s'arrêtent. Si l'on n'a de cesse que de sourire avec, tous les mots qui blessent pourraient disparaître, disparaître. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble, nos différences s'entendent. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse. Et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble, ensemble.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
J'aime pas vous les Anglais. Vous les aimez, vous les Anglais?
Ben oui.
Ah, moi je les aime pas.
Ça me fait peine de te quitter, mais rester, je peux pas.
Au fond, j'aime pas les adieux.
On va revenir tout à l'heure, vous pouvez rentrer chez vous, bonsoir.
Ah, on peut pas.
Elle va revenir tout à l'heure, voilà encore une chose que je disais, moi aussi. Et puis, ça fait 2 ans qu'elle doit revenir tout à l'heure.
Comment vais-je supporter son absence?
Bon, je vous quitte.
Vive l'Angleterre, vive la France!
Ce n'est qu'un au revoir à la chère perfide Albion, celle que nous adorons détester, nous Français. Les députés britanniques ont voté aujourd'hui l'accord sur le Brexit. Il ne reste plus qu'à la Chambre des Lords de faire de même pour que le Royaume-Uni ratifie cet accord. C'en est terminé de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, celle qui était entrée après un référendum en France sous le président Pompidou. D'où cette question. Allez-vous regretter les Anglais en Europe? Eh bien, vous répondez non pour l'instant sur le Twitter de Sud Radio à 85% d'entre vous. Allez-vous regretter les Anglais? C'est la question aussi qu'on vous pose au standard de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. On retrouve Jean-Noël. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Caroline, Yaël et
bonsoir.
Philippe.
Bonsoir.
Bienvenue. Yaël, un petit mot pour vous. Il ne faut pas fumer, c'est pas bien.
Effectivement, c'est important de le rappeler. Fumez tu, ma chère Yaël.
Ce que je veux vous dire, je ne sais pas si les Anglais vont nous manquer. Par contre, moi, l'Angleterre va me manquer pour diverses raisons. Sur la Côte d'Azur, sur tous les congrès cannois que nous avons à Cannes, une grande partie du marché économique, du festival, du film, du MIPIM, tout ce qui s'ensuit, le marché britannique est fort nombreux. Ensuite, ce que je veux dire par là, c'est que les Anglais sont partis, c'est qu'il y a une raison. Et au moins, on a respecté leur vote.
Ça, c'est vrai.
Ce qu'on ne respecte pas en France, malheureusement. Et alors, nous, on se targue la démocratie. Mais dès que la démocratie juge et parle et agit, on ne la respecte pas.
Vous faites allusion au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel de l'Union européenne.
Tout à fait, je fais référence à ça. Et au moins, le peuple anglais, lui, et son premier ministre de l'époque, M. Cameron, je crois que c'est lui.
C'était lui.
On a respecté ceci. À partir de là, les Anglais, ils sont pragmatiques et ils vont réussir ce que nous, on n'arrive pas à faire. Et l'Europe, on se donne rendez-vous dans 5 ou 10 ans, grand maximum, dans une petite décennie, afin de voir où en sera la France et où en sera l'Angleterre. L'Angleterre, on le voit déjà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et par contre, quand on dit qu'on ne va pas regretter l'Angleterre, si on va la regretter, parce que tous les marchands de champagne, ils ont tremblé comme des feuilles jusqu'au dernier moment parce que vous ne pouvez pas avoir des droits de taxes. Je ne vous parle pas du fromage, etc., tout qui s'ensuit. On a besoin de l'Angleterre. C'est un pays ami, c'est un grand peuple, au même titre que les autres. Et on a besoin de ce grand pays qui est l'Angleterre. Et malheureusement, pour nous, l'Europe, ils sont partis. Nous, on est français au milieu. En Corse, on dit « curuto e bastonato ». Ça veut dire « cocu et frappé ». C'est-à-dire que nous, on reste dans l'Europe, on a tous les inconvénients, beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Et on le voit déjà aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simple, je m'en laisserai 30 secondes s'il vous plaît. Merci. C'est-à-dire déjà au niveau des vaccins, depuis le 8 décembre, au moins eux, ils vaccinent, ils ont déjà vacciné 800 000.
C'est vrai.
Nous, on est à moins de 150, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le peuple anglais va dire « Attention les Européens, commencez pas trop à vouloir nous faire peur, tordre le bras, parce que sinon moi en Angleterre, j'organise le Delaware européen, je le fais paradis fiscal, et après on va rigoler deux minutes. » Et c'est là qu'il faut faire attention à tout ça, parce que le peuple anglais, c'est un grand peuple, l'histoire l'a montré, et se répète toujours, c'est ça que je veux dire.
Et c'est vrai, personne n'a dit le contraire. Alors, de toute façon, d'abord, personne n'a dit le contraire. C'est vrai aussi, hein, Jean-Noël, qu'on a des peuples amis, heureusement, qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne. Donc, rien ne nous interdit de rester amis avec les Britanniques. Mais restez avec nous, Jean-Noël. Vous êtes, je crois que vous nous appelez depuis Villeneuve-Loubet, hein, si j'ai bien compris, au 0826-300-300. Philippe Bilger, est-ce que vous pensez que c'est une triste nouvelle pour l'Europe ou pas ?
Non, mais pour des raisons différentes de celles de Jean-Noël. Pardon de remonter un peu loin, rappelez-vous de Gaulle qui était persuadé que l'Angleterre ne saurait s'arrimer à l'Europe parce qu'elle était fascinée par le grand large, et malheureusement Georges Pompidou n'a pas eu la même intuition. Bien sûr, en soi, je ne peux qu'être désappointé par le Brexit. Malgré, on a bien vu le cynisme de Cameron, on a vu celui de Boris Johnson, mais quand on considère un peu tout ce qui s'est passé depuis 4 à 5 ans, et pardon de faire de la publicité pour ce quotidien contestable mais irremplaçable qu'est Le Monde, qui a consacré 2 pages au résumé de l'histoire, c'est assez extraordinaire de voir à quel point Barnier et van der Leyen ont, avec acharnement, constance et talent, réussi à régler le problème. Mais quand on voit la manière dont la Grande-Bretagne a agi ou réagi, je me dis c'est triste. Mais au fond, en étant seul, en gardant des liens avec l'Europe et des pays amis, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver et nous arriver à nous.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Et nous, on continue de préparer tout tranquillement notre réveillon, parce que ça approche, et on voit comment ça se passe à l'étranger. En l'occurrence, là, on est en Pologne avec Vivien Coronel, qui est avec nous de Cracovie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Comment ça se prépare en ce moment, justement, à quelques heures de ce réveillon en Pologne ?
On sent quand même une certaine effervescence. Même s'il y aura malheureusement en fait, un couvre-feu pour le 31 au soir, oui, ce soir, oui.
C'est couvre-feu à quelle heure pour vous ?
Alors, ce sera entre 7h du soir et 6h du matin.
Ah oui, donc c'est encore plutôt, pour la France en l'occurrence, là c'est 20h, mais bon, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose au final, j'ai envie de dire. Vous allez faire quoi du coup pour ce réveillon ?
Eh bien, je vais passer avec ma petite amie chez moi. Voilà, rien de...
très bien, au calme. Au calme,
c'est ça.
Et dites-nous un petit peu au niveau, si vous avez ce couvre-feu-là, j'imagine que ça veut dire que l'épidémie est encore bien présente actuellement en Pologne.
Au niveau des chiffres, ils s'en sortent pas trop mal, mais oui, enfin, on sent quand même que ce n'est pas terminé.
Ça continue. Comment ça se passe en général, ces fêtes de fin d'année en Pologne? Vous les avez connues en France avec ce traditionnel 24-25 décembre et puis le 31. Ça se déroule un peu de la même façon en Pologne?
Alors, ça diffère quelque peu. Ils commencent à fêter, par exemple, la Saint-Nicolas le 6 décembre.
Oui.
Ils commencent à s'offrir des cadeaux. Et puis, il y a le traditionnel réveillon de Noël où ça s'offre encore des cadeaux. Et puis, ça mange les fameux pierogi. Voilà, les espèces de raviolis qui sont très populaires ici. Et puis, ça finit l'année avec normalement une fête. Même si, avec le couvre-feu, j'imagine que les gens resteront un peu plus chez eux.
Ah oui, sans doute. Ils vous conseillent quoi, en général, d'être en comité un peu restreint, en plus petit comité, c'est ça?
Alors, je suis pas sûr qu'il ne faut pas dépasser des réunions de 5 personnes.
D'accord. Ouais, c'est
voilà,
donc
vous voyez, pour les familles
aussi
un peu élargies, ça va être difficile.
Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça va être compliqué. Il va falloir faire plusieurs réveillons pour une même famille. Oui. Ça c'est clair. C'est-à-dire que alors vous nous dites que les chiffres, pour l'instant, ça va. Ça veut dire que globalement, après l'année qu'on a vécue, on sait que la Pologne a été pas mal touchée également. Ça veut dire qu'on souffre quand même un petit peu après ces mois qui ont été très difficiles.
Oui, écoutez, j'avais l'habitude, donc j'habite à Cracovie depuis 2 ans, et c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, même au niveau touristique, on sent vraiment une différence majeure par rapport aux années précédentes, c'est sûr, et puis peut-être plus de pessimisme aussi. Oui, alors que les Polonais aiment beaucoup faire la fête, ils sont plus sur la réserve au quotidien, mais oui, lors des périodes festives, ils sont très emballés.
Ils se lâchent.
Oui, c'est très important pour eux, mais là, on sent quand même une certaine... Un peu plus de tristesse, c'est vrai.
Un peu plus de tristesse. En termes de campagne vaccinale, ça se passe comment? Ça a débuté aussi de votre côté, j'imagine?
Alors oui, ça a débuté, je crois, il y a une semaine. Donc voilà, ce sont les gens en première ligne qui commencent à se faire vacciner, donc les personnes du corps médical, bien sûr. Et puis pour les fonctionnaires, après, en général, qui vont voir la danse. Mais oui, la campagne a débuté, oui.
Et il y a une méfiance en Pologne aussi, comme en France, par rapport à ce vaccin anti-Covid?
Alors oui, bien sûr, il y a des polémiques. Et puis, pas mal de Polonais lisent quand même un peu la... Enfin, oui, écoutent ou lisent un peu la presse étrangère. Donc, ils voient qu'il y a parfois des ratés avec ce vaccin et qu'il ne serait pas totalement sûr, j'utilise le conditionnel. Mais je pense que oui, quand même, je pense que ça se fera vacciner quand même plus massivement qu'en France, c'est sûr.
Ouais. Bah, en tout cas, pour l'instant, sur les études qu'on a, c'est peu d'effets secondaires, en tout cas limités. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de vaccinations dans le monde. On va suivre ça, bien sûr, pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Vivien, pour 2021?
Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? J'aimerais un peu plus d'animation en Pologne, et puis déjà. Et puis qu'on puisse retrouver une vie normale, tout simplement. Tous, pas seulement moi, mais voilà, tout. Que les choses reviennent à la normale.
Bah oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite et tout ce qu'on nous souhaite justement aussi par rapport à cette année 2021. Merci beaucoup Vivien Coronel d'avoir été avec nous depuis Cracovie, et puis bon réveillon du coup en petit comité. C'est avec votre petite amie, c'est important en tout cas d'être avec ses proches, avec ses plus proches, et ça sera l'occasion pour vous en tout cas. Merci.
Le meilleur de Sud Radio.
Sud Radio.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça les fait parler. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? Tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner. Et j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Partie de ces gens-là, rassurée quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait parler.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Qu'est-ce que vont penser les gens? Mais tu les laisses tous indifférents.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Nous sommes en guerre.
Le gouvernement durcit le ton pour tenter de maîtriser l'épidémie de coronavirus.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Il ne faut pas multiplier les dîners, il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, nous réussirons à vaincre ce virus.
Nous sommes en guerre.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Et d'abord, on remercie Jamel Abdellah, le réalisateur des vraies voix sur Sud Radio, qui nous a montré en 40 secondes ce que signifiait pour lui l'année 2020. Merci à vous, mon cher Jamel. Les restrictions de déplacement qui ne sont pas terminées, on parle de troisième vague, on parle pourquoi pas d'un nouveau confinement, un reconfinement, avant même d'avoir complètement déconfiné. Du coup, on va en parler avec vous au 0826-300-300. Valérie, bonsoir à vous.
Bonsoir, comment allez-vous et très belle fête à toute l'équipe.
Mais d'abord, on est très content de vous avoir en ligne sur Sud Radio, ma chère Valérie. En plus, vous êtes de Toulouse, on parlera de Toulouse dans une heure, dans un autre débat, justement, oui. Parce que les Français affluent dans la belle ville rose, justement, ville qui attire les nouveaux habitants. Mais auparavant, avec vous, ma chère Valérie, on va parler de ces restrictions.
C'est l'heure du duel.
Les Français se montreront-ils civiques jusqu'au bout de la fin des restrictions? Vous allez débattre avec Philippe Bilger. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les Français peuvent les supporter jusqu'au printemps, ces restrictions, ma chère Valérie?
Non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce que, on le voit déjà, beaucoup de fêtes clandestines, des restaurants clandestins. On a l'impression que ce qui s'est passé aux États-Unis entre 1920 et 1933 avec la prohibition de l'alcool, on n'en a retenu aucune leçon. C'est la porte ouverte, effectivement, à l'underground, à ce que ça fasse, effectivement, sous le manteau. Voilà. Et donc, si on veut effectivement que les soi-disant mesures barrières portent leurs fruits, il vaudrait mieux laisser les bars et les restaurants ouverts avec les gestes barrières.
En gros, si je retiens ce que vous dites, c'est que vous pensez que les Français ne sont pas convaincus par la légitimité de ces restrictions, que c'est pour ça peut-être qu'ils ne les respectent pas. Philippe Bilger.
Je ne suis pas loin d'être d'accord avec Valérie, mais il y a deux choses, à mon avis. D'une part, je peux comprendre les Français qui commence à être pris par une sorte de lassitude désespérée devant ces injonctions, ces permissions contradictoires, et donc il y a un affaiblissement du sens civique. Et je dirais que au-delà de la Covid-19, il y a chez certains Français une sorte d'indifférence, voire d'hostilité à l'égard de la loi. Rappelez-vous, une comparaison rapide pour les pays anglo-saxons. La loi est une garantie, chez nous elle est une menace. Et donc pour un certain nombre de gens, on aura beau faire, ils n'appliqueront jamais les règles parce qu'elles émanent de l'État, d'un univers officiel et, si, et qu'ils se croient audacieux en ne les respectant pas. C'est un grave problème que Téléscopage, pardon, ça doit être le joyeux Noël qui c'est fait ça. Des siennes, entre ces deux éléments.
Et c'est un peuple indiscipliné, c'est ce que vous dites, si je
certains,
comprends bien.
C'est clair.
Mais est-ce que c'est nouveau, en un sens, Philippe Bilger? Michel Pouzol.
Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un peuple, que ce soit l'idée d'un peuple indiscipliné. Je vous rappelle qu'on n'a jamais eu en France des manifestations comme en Allemagne contre le port du masque, des manifestations massives contre le port du masque, parce que les Allemands se sentaient totalement protégés. Bilan des courses, ils sont dans une situation qui aujourd'hui, au moment où on parle, est plus critique que la nôtre, et le confinement se fait. Donc, c'est ce qui est très compliqué dans ce sujet, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a jamais affronté réellement de cette façon-là, nous, en tant qu'individus, et nous, en tant que société. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les contraintes sont difficiles parce qu'elles ne sont pas comprises. Et on ne revient pas à quelques fondamentaux. Moi, j'ai toujours en tête un chiffre que je martelais le 14 mars dernier, où des spécialistes disaient « Si on confine le pays, il y aura 30 000 morts à la première vague. Si on ne le fait pas, il y en aura 300 000. » On a fait ce confinement, il y a eu 30 000 morts. Les mêmes ont dit « S'il y a une deuxième vague, elle fera autant de morts que la première. Nous en sommes à 60 000 morts. » Donc ces choses-là, malheureusement, existent. Après, ce qui est difficilement compréhensible, et moi je l'utilisais il y a quelques temps sur un post sur les réseaux sociaux, je disais, je suis au moins sûr d'une chose, c'est que les 500 dernières 1000 contaminations en France, les 500 000 du mois dernier, aucun n'a été contaminé dans un cinéma ou dans un théâtre.
Ça c'est clair.
Puisqu'ils étaient fermés.
Voilà.
Donc c'est ça qui paraît, qui est très compliqué à faire comprendre.
Est-ce que vous pensez que du coup il faudrait justement des serrer la vis?
Mais moi je veux dire une chose, parce que là par contre, les témoignages autour de moi, et ça vaut pas une règle générale, ça vaut pas une statistique, mais tous les témoignages autour de moi de gens qui ont attrapé le Covid ces derniers temps, qui l'ont attrapé de manière violente, qui ont eu des séquelles importantes, toutes et tous me l'ont dit, ils l'ont attrapé dans les mêmes conditions. Dans des réunions familiales ou amicales.
Ah oui.
Toutes et tous.
C'est ce qui vous
Donc
inquiète.
Ça, il faut qu'on l'ait en tête. C'est ce qui est le plus difficile. C'est ce qui est le plus difficile de ne pas recevoir. Moi, je n'ai pas reçu ma grande fille pour Noël. Je n'ai pas vu mes parents depuis un an. Oui. Ma maman et son mari à Clermont-Ferrand. C'est très difficile. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants. Mais malheureusement, ça, c'est une réalité qu'il faut intégrer. Je ne sais pas, moi, si les Français sont capables de supporter ça encore 3 mois. Il faut... On ne reviendra jamais assez sur la désastreuse communication des autorités et de l'État qui est contradictoire, incompréhensible et qui, donc, crée le doute. Mais, malheureusement, cette pandémie est une réalité planétaire. Enfin, personne n'est à l'abri. Et les pays qui se pensaient à l'abri à la première vague, on voit que la deuxième vague sont touchés de plein fouet. Ça n'épargne personne.
Le meilleur de Sud Radio.